Alors aujourd'hui, le message va faire lien avec ce qui va se passer tout à l'heure, évidemment. Mais je pense que vous n'allez pas tout de suite voir le lien, mais ça va arriver. Mais j'ai envie de commencer avec cette question. Est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu fatigué de toutes les conditions auxquelles nous devons souscrire pour, exemple, consulter une page internet, s'inscrire au camp de l'escale, inscrire votre enfant à un camp quelconque, réserver vos vacances, juste acheter quelque chose, un produit sur Internet, pas en Chine bien entendu, mais sur Internet. Et puis souvent pour obtenir quelque chose ou pour entrer dans un lieu, eh ben, on a aussi besoin de remplir à des conditions. Hein. Alors parfois c'est écrit en grand, puis ça pose moins de problèmes à beaucoup d'entre nous. Par exemple, ne pas fumer.
Mais ne pas manger. J'en ai lu une série là.
Vous allez voir. Voilà, ne pas manger, ne pas prendre de photos, avoir plus de 18 ans, avoir un certain niveau de formation. On peut avoir plein de choses. Hein. Pas jouer au ballon, pas de natel, ça c'est bien. Et puis j'ai trouvé extraordinaire parce qu'il y avait même le dernier là, ne pas avoir de cœur. Je me suis dit, mais là, c'est la mort, quoi. Donc, toutes ces interdictions peuvent nous faire mourir. Mais c'est vrai qu'on a toujours des conditions pour tout, quoi. Et des fois, on ne sait même plus trop ce qu'on fait. Hein. Moi, j'accepte, je ne sais pas quoi j'accepte, mais j'aimerais aller au bout du truc, quoi. Voilà. Est-ce que ces conditions sont toujours nécessaires? C'est un peu la première question que j'aimerais vous poser. Mais imaginons que vous avez gagné un magnifique voyage pour un mois sur une île du Pacifique. Là, vous rêvez. Là, vous entendez le bruit de l'eau. Ah, voilà. Mais du coup, oh, c'est pas grave, ça va revenir. Du coup, vous vous dites, pour gagner un petit peu d'argent, ce serait bien, même si j'ai gagné le voyage, que je puisse louer ou sous-louer mon appartement. Hein. Comme ça, pendant ce temps, je ne paye pas de loyer. C'est intelligent comme calcul, n'est-ce pas? Bon. Alors, est-ce que vous prendriez le premier venu ou bien vous mettriez quand même quelques conditions pour sélectionner un peu la personne? Hein, vous mettez quelques conditions quand même. Est-ce que vous mettriez quelques règles à observer dans votre maison ou bien vous seriez du genre « Moi, j'y vais, ciao, fais comme chez toi. Hein ?» Nous, on a fait une fois cette expérience avec Damaris. On s'en souvient encore, je dois dire. C'était des gentils étudiants. Et puis, quand on est revenu, il y avait plus de... Enfin, voilà. J'avais écrit pendant le voyage, j'avais dit « Est-ce que tout va bien ?»« Oui, tout va bien. » Je reviens, la douche ne fonctionne plus, il y a un trou dans le carrelage parce qu'ils avaient bouché les écoulements. Je retrouve des bouteilles de pelle sous le canapé. Enfin, c'était... Voilà. Donc on est arrivé le soir, on avait notre bébé, Jérémy était petit, on arrive à la maison, puis là, ma femme elle craque, quoi, elle pleure, il y a déjà toutes les émotions, le voyage, le truc, t'arrives. Bon, on n'avait pas gagné un mois dans le Pacifique, merci, c'est parfait comme ça. Voilà, donc on met quelques conditions. Et puis, à quelque part, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est inévitable de mettre ces conditions. Si tu veux faire partie d'un groupe, encore un autre exemple, tu fais partie d'un groupe de vélo, ben, il y a quelques conditions. Il faudrait peut-être savoir faire du vélo. Idéalement, avoir un vélo hein, pour rayon JC, avoir peut-être une bonne condition physique. Et puis, peut-être même qu'il faudrait changer de vélo. Ils vont peut-être te dire, ben, ton vieux vélo de 30 ans, même si tu es attaché sentimentalement, il est trop lourd, puis le porte-bagages n'est pas nécessaire, hein, par exemple. Donc, voilà, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Alors, qu'en est-il de l'Église? Quelles conditions sont nécessaires pour faire partie de l'Église? Qu'en est-il d'une communauté comme celle-ci? En fait, on met quand même quelques conditions, mais le premier critère, c'est évidemment celui de la foi. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois la même chose que moi? C'est intéressant, est-ce que tu crois la même chose que moi? Et en fait, c'est des questions qu'on s'est posé depuis la naissance de l'Église. Depuis le premier siècle, on a commencé à se poser ces questions. Les premiers chrétiens, les premiers évêques, responsables de communautés, ont dû se positionner puis se réfléchir à ces choses. Finalement, c'est quoi être chrétien? C'est quoi faire partie de la famille de Dieu, de l'Église, du peuple de Dieu. Et c'est ce qui s'était discuté dans des conciles. Vous avez déjà entendu quand même des conciles, hein, un concile. Alors, par exemple, cette année, on fête le 1700e anniversaire du concile de Nicée. Donc en 325, sous l'impulsion de l'empereur Constantin, il y a eu le concile de Nicée qui a réuni plus de 300 évêques. Puis ce concile, il était important parce qu'il nous a donné justement notre confession de foi, la confession de foi qui nous est commune et qui est encore valable aujourd'hui. On parle du symbole des apôtres sur lequel on est toujours d'accord entre nous, entre chrétiens d'origine différente, catholiques, orthodoxes, réformés, évangéliques. Et puis on lit parfois ce symbole des apôtres dans nos célébrations écuméniques. Hein, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créature du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je ne vais pas vous tout le dire, il est écrit en petit là, si jamais. Voilà. Mais la grande force de cette confession de foi est le fait de reconnaître que Jésus-Christ est de la même nature, de la même substance, homozios, voilà dans le grec, hein, la même substance que le Père. Et cela, c'est essentiel parce que aujourd'hui, ça veut dire que nous voyons pleinement Dieu, puis on est d'accord les uns avec les autres qu'on voit pleinement Dieu au travers de Jésus-Christ, le Fils. Puis c'est même Dieu lui-même, au travers de Jésus, qui vient nous sauver. D'accord ? Donc c'est des choses qui sont importantes. Ces conciles ont décidé de choses importantes. Et puis au 1er siècle, il y a eu un autre concile. Le premier concile, c'est le concile de Jérusalem. Et le premier débat, c'était sur l'intégration des nouveaux chrétiens. C'était ça la grande question, comment on va intégrer, quels critères on va mettre à ces nouveaux convertis qui n'étaient pas des juifs, mais des païens. Puis là, ça posait quelques problèmes. Que fallait-il faire avec ceux-là? Puis en fait, aujourd'hui, il s'agit un peu de nous, quoi. Hein, les païens, c'est nous. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient juifs avant d'être convertis, juifs messianiques ici parmi nous. La plupart, on est des païens. Donc c'est avec cette question-là que en fait est débattu et on trouve un peu le rapport, le petit condensé de ce concile dans Acte 15. Et on va le lire ensemble, on va lire les 20 premiers chapitres. Donc ce concile, c'est la rencontre des responsables de l'église de Jérusalem et puis la rencontre des responsables de l'église d'Antioche. Et on va lire ça ensemble. Je lis dans la version Summer. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Donc là, ça vous donne un peu le contexte qui a donné ce concile. Hein. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit, évidemment, et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvue à leur voyage, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu, et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables, ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. The Concile. Verset 7. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit. Donc quand ils disent longue discussion dans la Bible, c'est vraiment très long. Hein, d'accord. Mes frères, que vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non, voici au contraire que ce que nous croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, non nous juifs, de la même manière qu'eux. Alors tout le monde se tut pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux parmi les païens. Voilà, verset 13. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Simon vous a appelé comment, vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il a écrit « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la maison de qui s'était effondrée, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. » Alors le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur, oui, toutes les nations qui sont appelées à m'appartenir. Ainsi parle le Seigneur qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Voici donc ce que je propose, continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. Ce qui étaient des prescriptions vécues par tous ces juifs qui les entouraient. Et puis, ben, s'ils ne respectaient pas ça, ça allait vraiment créer un conflit, ça allait vraiment choquer. Donc, il a dit, ben, voilà, restreignons ces conditions à ces quelques points-là. Alors, lorsqu'un juif se convertissait, ce n'était pas un problème, parce qu'il avait le bon ADN. Il avait déjà tout un héritage spirituel. Il connaissait la Torah, il connaissait l'histoire, il fêtait les fêtes, il allait à la synagogue, il priait, il connaissait les lois, il savait qui était Moïse. Croire que Jésus est le Messie venait faire du sens et éclairer tout ce qu'un juif connaissait déjà. Mais lorsque les premiers païens se sont convertis, ben, c'était tout autre chose. Un païen était pour les juifs une personne impure. Et puis quand même, même pour un juif converti, le Messie était quand même d'abord pour eux. Alors, comment maintenir des critères moraux hérités de la loi de Moïse s'il y a plus de chrétiens d'origine non-juive que juive ? Parce que c'est ça qui était en train de se passer. En fait, ils étaient dépassés. Il y avait tellement de conversions qu'ils réalisaient bien qu'à ce rythme-là, il allait y avoir plus de chrétiens non-juifs que de chrétiens juifs. Donc, comment on va faire ? C'est ça la question. Nous, on a été circoncis pour montrer notre appartenance au peuple de Dieu. Ces païens convertis ne devraient-ils pas se faire circoncire aussi, finalement ? Ça paraîtrait normal. Est-ce qu'ils ne devraient pas suivre les mêmes règles que nous ? Des questions légitimes, quand tu te mets à leur place. Devenir chrétien pouvait leur sembler un peu trop facile. Enfin, je veux dire, nous, on a une histoire, on a hérité quelque chose. Et puis, eux, ils peuvent devenir chrétiens comme ça ? Il y en a peut-être qui devaient se dire un peu à la vaudoise, puis alors, tout fout le camp. Hein ? Ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus pareil si ça continue comme ça. On va perdre quelque chose. Donc, quelles conditions fallait-il leur mettre ? Les chrétiens d'origine juive devaient, en fait, devaient ouvrir leur cœur, leur faire de la place. Et c'était difficile. C'était difficile. Et Simon-Pierre, qui s'exprime au verset 8, a dû lui le premier se laisser toucher et convaincre. Au verset 8, il fait référence de son expérience dans la maison de Corneille. Il y est allé à la suite d'une vision, souvenez-vous, où Dieu lui avait demandé de manger des aliments impurs. Il avait vu une vision comme ça sur le toit de sa maison. Et puis Dieu lui avait dit à deux reprises, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. Vous vous souvenez de cette vision que Pierre a eue ? Et c'est sur ces paroles-là qu'il a pu entrer, qu'il est allé dans la maison de Corneille pour présenter l'évangile, pour prêcher. Et puis même si dans son discours en acte 10, on voit qu'il reconnaît, il dit « Dieu ne fait pas de favoritisme », il commence comme ça, mais dans son discours, il y a quand même quelques signes qui montrent qu'il y a une lutte intérieure, un tout petit peu pour Pierre. Et puis si vous relisez bien, vous verrez, il est dit... Il dit « Dieu a envoyé sa parole aux Israélites ». Il dit aussi « Nous sommes témoins de ce que Jésus a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem ». Et après la résurrection, il dit « Il n'est pas apparu à tous, mais à ceux qu'il avait choisis d'avance ». Donc qui ? Nous. Donc il met quand même, voilà, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais quand même. Et puis là, alors qu'il parlait, nous dit le texte, le Saint-Esprit descendit. Verset 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre est en train de faire son joli discours, puis d'un coup, boum, quelque chose se passe, c'est comme si le Saint-Esprit met tout le monde d'accord. Hein, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Donc voici ce qui se passait un peu partout. Voici comment le Seigneur a dû ouvrir leur cœur. Ça a dû être un peu radical. Hein, mais là, devant le constat que le Saint-Esprit est déversé sur eux, sur les non-juifs, eh ben, tu ne peux pas t'opposer. Tu ne peux pas commencer à dire, ah ben alors, on va commencer à mettre plein de conditions. Non, si le Saint-Esprit est descendu, c'est qu'il est OK. Voilà. Et c'est pour cela que Pierre, Paul, Barnabas racontent devant tous, hein, dans ce synode, de ce concile, tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux, parmi les païens. Il fallait convaincre, il fallait expliquer, mais voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est en train de prendre place. Donc Dieu leur a ouvert le cœur. Il leur a demandé de faire de la place pour ces hommes et ces femmes qui se tournaient vers Jésus. Et ce matin, j'aimerais simplement nous encourager à faire de même. Ouvrons nos cœurs. Faisons de la place. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs. Montre-nous comment tu es en train d'agir. Beaucoup d'entre nous ici ont passé des dizaines d'années dans des communautés chrétiennes, des églises locales, comme celle-ci. On a des habitudes, on a des règles non dites, on a des codes, on a des manières de faire. Et nous devons apprendre à ouvrir notre cœur, parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu, il n'est jamais à l'arrêt. Il est en mouvement, au contraire, et ne souhaite pas que la forme, la structure, le bâtiment, l'habillement, ou ne sais-je, deviennent un obstacle figé pour ceux qui se convertissent en 2025. Et les personnes qui se convertissent à l'heure actuelle, elles n'ont rien connu de nos manières de faire du passé. Elles n'ont pas grandi dans des familles chrétiennes bien équilibrées, quoique. Elles n'ont reçu aucune éducation chrétienne. Elles n'ont peut-être plus chanté depuis qu'elles ont terminé l'école. Nous, on a fait 40 minutes de louange. C'était très bien. Elles n'ont aucune culture biblique. Et puis, c'est des personnes peut-être qui ont essayé 1000 choses avant de venir à Jésus. Nous devons leur faire de la place. Nous devons ouvrir notre cœur. Et la parole... un peu boum, j'ai dit comme ça, la parole boum de Jacques, la parole qui va résumer ce concile, c'est celle-ci. Hein. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Et j'ai envie de dire pour nous aujourd'hui, non seulement ne créons pas de difficultés supplémentaires, mais facilitons l'accès. Facilitons l'accès à l'Évangile, facilitons l'accès à Jésus-Christ. Donc ça commence par nos propres cœurs. Est-ce que je me réjouis lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans ce lieu? Est-ce que je m'en préoccupe? Merci pour le oui. Est-ce que je m'en préoccupe? Hein, c'est bien de se réjouir. Est-ce que je m'en préoccupe? Est-ce que je fais de la place? Est-ce que vous êtes déjà trouvé au milieu d'un groupe comme ça? Puis en fait, vous êtes la personne qui connaît personne. Vous êtes la personne là qui regarde comme ça. C'est vraiment désagréable. Moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Généralement, j'ai de la facilité de contact. Mais dans ce genre de cas-là, je me sens mal. Je me sens petit, insignifiant. Je ne sais pas, tu regardes un peu, tu viens pas. Quelqu'un te regarde, tu ne regardes pas. Tu fais quoi? Tu pars. Hein? Et même en tant que pasteur, ça m'est déjà arrivé, quand j'étais prêché dans une église, de ressentir ça. Hein? Alors, il y a des églises qui vont dire « Ah, c'est l'homme de Dieu, tout, il t'en sens », et puis tu leur dis « Non, calmez-vous ». Et puis, à d'autres endroits, tu prêches, puis après, tu finis le culte. Personne. Personne ne te dit bonjour, il n'y a pas de contact. Ben, voilà, j'y vais, au revoir. Mais c'est difficile comme sentiment. Hein? Donc, on se sent à l'aise lorsque quelqu'un nous ouvre son cœur. C'est comme si le cercle, d'un coup, s'élargit, puis dit « Hey, bienvenue, viens, t'appelles comment, on fait des présentations, ou bien peut-être que la personne te connaît, ah ben c'est Luc, ben, je te présente au groupe et tout, on était en train de parler de ça, ha ha ha, et puis c'est bon. » C'est pas, voilà, mais on a besoin de s'élargir, on a besoin d'ouvrir. Est-ce que je fais de la place à ces nouvelles personnes? Est-ce que je leur laisse de la place dans mon cœur? Hein, quelle place y a-t-il dans mon cœur pour ces nouvelles personnes? On se dit parfois qu'il n'y a plus de place pour de nouvelles amitiés. Il n'y a plus de place pour de nouvelles relations. Et c'est vrai qu'on est tellement dans un monde, dans une société où il faut faire. Et puis, on a tellement de choses que des fois, on se dit non, il n'y a plus de place. Mais est-ce bien le cœur de Dieu? Imaginez le cœur de Dieu qui dit il n'y a plus de place. Mais nous sommes son cœur. Nous sommes son corps. Faisons de la place. Facilitons l'accès. Aimons. Intégrons. Discipulons les nouveaux croyants qui ont rejoint notre communauté. Nous l'avons entendu la semaine dernière, les groupes de maison sont aussi un moyen parfait pour cela. Et le message d'aujourd'hui va dans ce même sens. Donc deuxièmement, on a besoin de répondre aux besoins pour faciliter l'accès à Jésus. En étant une église pour aujourd'hui, hein, vous avez peut-être vu l'escale, c'est écrit l'escale, une église pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire une église pour aujourd'hui? C'est une église qui est, évidemment, ce n'est pas une église qui est pour hier. D'accord? Ça semble logique, hein? Une communauté qui est pertinente dans son contexte, qui est en phase avec la situation des gens. Et ces situations, elles évoluent. Dans le cinquième discours de Jésus, dans Matthieu, chapitre 25, il parle de la fin des temps, du jugement dernier, et puis il parle comme un berger sépare les brebis des boucs, hein, il prendra les uns dans son royaume, puis on verra les autres en enfer. Hein, c'est un jugement, c'est la réalité. Et l'explication de ce choix qui est donné par Jésus est la suivante. Hein, il dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Hein, puis après, ils vont dire, mais quand avons-nous fait tout ça? Puis ils vont dire, mais quand vous l'avez fait au plus petit de mes frères? Alors déjà, il y a la discussion aussi, hein, au plus petit de mes frères, donc ce n'est pas forcément à tout le monde entier, hein, ça commence déjà aux frères, aux disciples qui ont été peut-être rejetés, aux disciples qui ont été malmenés, aux disciples qui sont aujourd'hui persécutés, etc. Mais la réalité, c'est que des gens n'ont pas assez à manger. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui ont besoin d'être accueillis, il y en a qui ont besoin d'être vêtus. D'autres ont besoin d'enseignement sur Jésus, sur le couple, la famille, les médecines parallèles, par exemple, hein, la sexualité, la gestion de l'argent, besoin d'enseignement. Mais si on ne parle pas de ces thèmes actuels, comment sauront-ils? Si on ne se préoccupe pas de leurs besoins physiques, matériels, comment pourront-ils saisir l'amour de Dieu? Comment pourraient-ils comprendre que la foi en Jésus n'est pas théorique, mais elle est concrète, elle est réelle, elle est vraie, elle est démontrée? Alors, c'est vrai, à l'escale, on essaye de prendre en considération ses besoins en distribuant de la nourriture, par exemple. Alors, je ne vais pas tout dire ce qu'on fait, mais voilà, c'était ce que j'ai donné à nos partenaires au début d'année. Hein, l'année passée, 8 ans de famille ukrainienne aidée en partenariat avec Adra Shop. 150 paniers de nourriture distribués lors des éco-échanges. 7200 yogourts distribués, vous y avez contribué. Merci, il y en a encore dans le frigo. Bon. Mais oui, on offre de la nourriture, on offre des habits de seconde main. Et puis on met des parcours en place. Hein. Il y a le parcours alpha, évidemment, mais il y a les parcours parents, il y a des soirées couples. Et puis il y a des différents groupes. Il y a les groupes de maison, mais il y a les groupes solo, il y a les groupes femmes, hommes, 20-35, pour pouvoir rejoindre le plus grand nombre et aborder les besoins de chacun. Alors moi, je ne peux pas parler pour les femmes, mais en tant qu'homme, il y a des sujets qu'on aborde qu'entre frères. Et puis dans ces moments de rencontre entre hommes, il y a des choses qui se vivent. Et puis je peux vous dire que quand on se retrouve puis qu'on adore Dieu ensemble, il y a une force, il y a une puissance, il y a quelque chose qui nous touche. Mais on s'encourage, on peut se soutenir, on peut s'aiguiser entre nous. Donc Jésus répond aux besoins des gens, je l'ai mis comme ça, et il le fait au travers de l'Église. Répondre à leurs besoins les rapproche de Jésus. Et il y a le pasteur Mac Manus de l'église de Mosaïque à Los Angeles qui a dit ceci, « L'église est devenue une forteresse pour se protéger du monde au lieu d'être l'espoir du monde. » Et des fois, c'est vrai, on est un peu comme ça. On se fortifie, on veut rester comme ça. On a peur, alors que non, on a quelque chose. On a la vie à offrir, la vie de Jésus. Troisièmement, ce sera mon dernier point, ne vous inquiétez pas. C'est le plus important déjà. C'est en servant la communauté, que nous permettons à ces nouvelles personnes dans la foi de grandir et de s'approcher de Jésus. Donc à la fin de notre rencontre, vous aurez donc la possibilité de vous promener ici puis de découvrir tout ce qui se passe dans les différents secteurs de l'Escale. Mais j'aimerais vraiment, j'ai mis une petite image pour ça, j'aimerais vraiment planter quelque chose dans votre cœur aujourd'hui. Vraiment. Alors que vous servez, vous êtes en train de faciliter l'accès à l'Évangile. Et malheureusement, parfois, quand on sert, on oublie ça. On trouve que c'est un peu fatigant quand même. Et puis que, ouais, c'est un truc de plus. Puis qu'on nous en demande pas mal. Puis vous le savez, hein, des fois, moi, je me casse en quatre moi-même pour ne pas vous en demander trop. Parce que je sais que vous êtes des bénévoles. Mais ça devrait être une priorité et un privilège de servir. Et puis, on ne veut pas mettre toute notre énergie pour l'interne. Mais des fois, c'est ce qu'on a l'impression si on oublie ça. En fait, ce que vous faites, vous êtes en train de faciliter l'accès à l'Évangile. Alors, réfléchissez-y un petit peu. Par exemple, la personne qui projette les paroles des chants, bah, elle nous permet à tous de vivre un temps d'adoration et de nous approcher de Jésus. Mais cette personne qui est nouvelle convertie, qui ne connaît pas les chants, qui arrive pour la première fois, comment elle fait s'il n'y a pas la projection ? Elle ne sera peut-être pas à l'aise de chanter, mais au moins, elle aura les paroles. Elle va comprendre. Ah, c'est ça, ils ne savent pas tout par cœur. Et puis, ah, c'est ça, je peux m'y raccrocher. La personne qui fait la sono, bah, elle nous permet de comprendre ce qui est dit. Elle permet d'entendre le message de la parole de Dieu, puis de rendre le son agréable pour tous. Merci à eux. La personne au streaming, bah, elle permet de diffuser la parole de Dieu à un plus grand nombre encore. Et puis, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, à ceux qui sont malades, et puis on a plusieurs, et on prie pour vous, qui nous regardez ce matin. Puis la personne qui décore, c'est magnifique, non ? C'est beau. La personne qui décore, ben, elle rend ses locaux industriels, gris, métalliques, en locaux chaleureux. Elle communique par là, quoi ? La beauté de Dieu, la vie de Dieu, sa joie. Et puis les moniteurs de l'enfance, ben, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils font du gardiennage ? Non. Non ? Non, non, non. Ils rendent l'Évangile accessible aux enfants. Ils leur permettent de parler avec un langage qu'ils comprennent, avec un timing aussi qui leur convient. Hein ? Parce que là, les enfants, ils feraient quoi ? Ils tourneraient là en rond. Donc non, c'est ça. Mais bien sûr qu'ils permettent aussi aux parents de pouvoir écouter, de pouvoir vivre le culte paisiblement. Donc c'est clair. Donc vous voyez, tout ça, on pourrait en dire encore et encore, hein, mais tout ça, leur rôle, leur rôle, leur fonction, enlève des difficultés aux nouveaux convertis, aux futurs nouveaux convertis et à chacun de nous. Donc ce n'est pas juste des services pour faire joli, ce n'est pas juste pour dire « Ah, regardez, on fait plein de choses » et puis non. Il y a une vision, il y a un but, il y a un impact. Et nous sommes une grande église, je le disais à l'Assemblée Générale, notre fichier d'adresse, vous n'avez pas l'impression là ce matin, hein, c'est plus de 600 personnes. Et c'est trop bien. Et on a la joie toutes les semaines d'accueillir des nouvelles personnes. Et si vous êtes nouveau ce matin, si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. Vous êtes à la bonne place, Jésus aimerait vous parler. C'est trop bien. Mais le Seigneur a besoin de chacun de nous à son service pour rendre son message, son pardon, sa guérison, son salut accessible au plus grand nombre. Et ça, c'est le travail de l'Église. C'est le travail du corps de Christ. Une ou deux petites citations pour la route. Martin Luther King, je n'ai pas besoin de le présenter, j'espère. « Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. » Ah oui, c'est vrai. Hein, on est tous importants alors que on fait quelque chose, on peut tous faire quelque chose. Donc oui, on a besoin de votre aide à l'Escale, mais j'aimerais le redire, ce n'est pas pour faire fonctionner une machine. Hein, moi, j'ai horreur de ça, je ne vais pas faire fonctionner une machine. C'est pour toucher les gens, pour permettre aux uns et aux autres de rencontrer Jésus dans de bonnes conditions, de manière adaptée et pratique. Jean-Jacques nous posait une question assez osée la semaine dernière. Il a dit « À quoi cela sert de lire sa Bible ?» de prier pour que le royaume de Dieu grandisse et de ne rien faire, sinon de venir au culte et rapidement rentrer chez soi. Hein, je suis sûr qu'il y en a qui ont relevé cette question. Et Il n'y va pas de main morte. Et puis, il a répondu, ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que lire la Bible, ça sert toujours. Mais le Seigneur aimerait nous utiliser. Alors, j'ai trouvé aussi une citation un petit peu trash. Mais ça va encore. En réalité, beaucoup de gens qui fréquentent une communauté pensent que leur sacrifice et service se résument à leur semi-fidélité au culte du dimanche et à leur offrande occasionnelle. Bon, ça va, c'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est un gentil pasteur américain pour moi. Mais évidemment, votre service est bien plus important que votre présence ici ce matin et votre généreux don. Votre service permet et permettra encore à des bébés spirituels de grandir en ayant accès à la parole, à Christ, à l'Évangile, l'Évangile incarné. Alors je conclue. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Au contraire, je ne sais pas si c'est très lisible, au contraire, aidons-les, facilitons le contact, l'accès à Christ en leur faisant de la place dans notre cœur, en répondant à leurs besoins et en servant la communauté de toutes sortes de manières. Puisque chacun de vous a reçu un don, mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4, 10, verset que vous avez aussi lu la semaine dernière. Alors concrètement, ce matin, je ne vais pas faire un appel, mais j'aimerais terminer ce culte dans quelques instants. Et la meilleure réponse que vous pouvez donner à ce message, c'est vraiment d'ouvrir vos cœurs. C'est vraiment d'aller à la rencontre. C'est vraiment de vous soucier les uns des autres. Parlez à ceux que vous ne connaissez pas. Intéressez-vous. Et intéressez-vous aux différents secteurs de notre communauté. Il y a plus qu'une centaine de bénévoles, mais c'est des proportions assez normales, en fait. On dit qu'il y a en 20 et 30% d'une communauté qui sert. Puis c'est un peu les proportions à l'escale. Ça paraît beaucoup, mais face à tout ce qu'on peut encore vivre, et face à tous ces jeunes bébés spirituels qui arrivent, et tous ceux qui vont arriver, eh ben, 20 ou 30% qui sert, ce n'est pas suffisant. Donc il y a une place pour chacun. Et j'aimerais vraiment le dire, il y a une place pour chacun. Et en fait, l'idée de ce temps après, ben, vous allez prendre l'apéro, du coup ça va vous faciliter le contact, et on sait bien que tout se passe autour d'une bouteille de blanc. Et puis après, vous pouvez circuler dans ces secteurs, et puis peut-être que vous pouvez vous dire, mais Seigneur, est-ce que il y a un endroit où tu m'attends? Est-ce qu'il y a un endroit pour moi? Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais que je facilite l'accès à ton évangile? J'aimerais simplement terminer par la prière, et puis j'aimerais demander au Seigneur que nous soyons des facilitateurs et que cette graine plantée ce matin puisse porter du fruit. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que toi-même, tu es venu comme un serviteur. Tu as dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui sert. Et c'est l'exemple que tu nous as donné. Et Seigneur, on est heureux de pouvoir se mettre à ton service et de faciliter l'accès à qui tu es, à ta parole, à ton nom glorieux, à ton évangile, à tous ceux qui entrent dans ce lieu, à tous ceux qui entreront encore, à ceux qui ne sont pas dans ce lieu parce que ça va bien plus loin que nos quatre murs et heureusement. Alors Seigneur, merci de nous parler, merci de nous renouveler dans notre vision du service, afin que ce ne soit pas quelque chose de lourd, un fardeau qui pèse dans nos semaines, mais que ce soit vraiment une joie. Seigneur, qu'on puisse découvrir encore plus la joie de te servir. Et Seigneur, que nous soyons encouragés les uns les autres de voir des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui se lèvent, qui se tournent vers toi, qui se baptisent, qui te choisissent. Quel cadeau, quelle grâce. Alors Seigneur, je prie que nous puissions être, une seule église. Un seul corps en mouvement pour toi, Jésus. Ouais, merci Seigneur de toucher celui ou celle qui pense qu'il n'y a toujours pas de place pour elle ou pour lui, qui se sent peut-être rejeté, inutile. Merci d'enlever ces mensonges qui ne viennent pas de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Bon dimanche à chacun.